grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre rendez-vous, le grand dialogue de ce lundi revient sur le processus de paix. C'est la suite à la rencontre en cours à Alger qui était censée voir la CMA paraffer le document du préaccord. Le préaccord n'est pas paraffé jusqu'à ce jour. Pourtant, on annonce la signature à Bamako de l'accord de paix le 15 mai prochain. Alors, sur quoi repose une telle annonce? Pense-t-on que ceux qui refusent de paraffer le préaccord reviendront à de meilleurs sentiments avant cette date? Et si toutes les parties ne signez pas, que va-t-il se passer? Ce sont là, entre autres, les questions que nous allons adresser à nos trois invités qui sont Ibrahim Achianga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la Coalition pour le peuple de l'Azawad, c'est donc la CPA. Il est affilié à la CMA, lui, on l'aura au téléphone. Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Le débat d'aujourd'hui vous est présenté par Seydou Fomba. Le processus de paix au Mali, le sujet est à la une, voilà déjà une semaine avec une énième rencontre à Alger. Cette rencontre qui au départ était conçue comme une cérémonie de paraffe a tourné à des discussions qui n'ont abouti à rien de concret. Doit-on parler d'échec ou tout au moins de blocage? Nous allons poser la question en premier lieu à Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad.
Oui, bonsoir.
Oui, nous vous entendons.
Oui, merci beaucoup. D'abord, je pense qu'il n'y a pas eu d'échec. Je ne pense pas qu'il y ait eu aussi du blocage. Si vous avez connaissance de la lettre du 4 avril que la coordination des mois de l'Azawad a adressée à la médiation, il y avait un point essentiel que j'avais personnellement annoncé quelque part dans une de vos émissions. Le premier point, c'était que la coordination des mouvements était disponible à paraffer le document du 1er mars. Et le deuxième point, après les paraffes, on envisageait des consultations avec les partis pour clarification, explication de certains points avant la signature. Donc les partis se sont retrouvés dans cet esprit et je pense que si vous prenez même la lettre d'invitation du médiateur, c'est un peu ce que la lettre dit. Alors quand les partis se sont retrouvés, les choses ont changé. Finalement, les partis n'étaient pas d'accord qu'on ouvre une quelconque consultation, ni avant les paraffes, ni après les paraffes, ni avant la signature, mais que rien ne serait possible qu'après les paraffes et la signature. Et voilà, donc à ce niveau, les partis ont dit, ça c'est une nouvelle donne et qui mérite d'être examinée et c'est extrêmement important. Donc
Mohamed,
voilà ce qui s'est passé.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, vous pensez que cette rencontre d'Alger a été un succès?
Moi, je pense qu'elle a été un succès dans la mesure où il y a quand même un acquis, parce que la médiation, vous l'avez constaté, qu'elle a été élargie aux États-Unis et à la France. Ça, c'est un acquis en termes de garantie par rapport à l'application, en termes de garantie par rapport au suivi, en termes de donner plus de force aux structures de suivi de l'accord, cela est extrêmement important. Donc, je ne peux pas dire que la rencontre est un échec, je pense que le processus suit encore son chemin, et il y a encore vraiment de l'espoir que ça aboutisse. Selon ce que nous voulons.
Alors, Ibrahim Achianga Maïga, vous êtes du ministère de la Réconciliation nationale. Est-ce que vous pensez que la rencontre d'Alger a été un succès? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas parler de blocage ni d'échec?
Merci. Bonsoir, chères auditrices. Bonsoir, chers auditeurs. Et au nom donc du ministère de la Réconciliation nationale, je vous dis tous bonsoir. En fait, la rencontre d'Alger, moi, je ne peux pas dire que c'est un succès. Dans la mesure où, d'abord, pourquoi cette rencontre? Dans la mesure où le document a été paraffé par l'ensemble des partenaires, y compris l'ensemble de la communauté internationale, et je précise que les États-Unis étaient présents lors du cinquième round. Ils étaient présents, mais pour des problèmes de commodité. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas signer un document sans l'aval du Congrès. C'est la seule raison qui les a poussés à ne pas signer le document à Alger, le jour où les autres pays ont paraffé le document. Ils sont parfaitement d'accord avec tout le contenu du document, sauf qu'ils ont dit que il faut d'abord qu'ils attendent l'aval du Congrès pour pouvoir paraffer le document. C'est donc dire que cette fois-ci, les États-Unis étaient là. Les États-Unis étaient là bien avant. Mais je pense que dans des situations de ce genre, vraiment, il faut être responsable. On est responsable quand vraiment devant des situations de ce genre, on arrive à assumer ses responsabilités. Le gouvernement du Mali n'a pas dit qu'ils ne mettent pas des réserves sur le document. On avait des réserves de 15 pages. Mais on a dit pour la paix, pour la tranquillité, pour la stabilité de la sous-région même, nous allons paraffer le document. Et nous sommes d'accord que le reste après la signature, c'est entre nous frères. On va continuer à dialoguer et on verra ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on leur a demandé, ils ont refusé. Ils veulent qu'on revienne sur des modifications de documents déjà paraffés. Qu'on aille dire à chacun, à chaque partie qui a paraffé le document, venez encore enlever votre paraffe afin qu'on puisse modifier tel ou tel mot, tel ou tel virgule. Non, soyons sérieux.
Alors, Chaka Tchebledoumia, vous êtes du Centre d'analyse politique et économique. Oui. Quelle lecture faites-vous de ce qui vient de se passer à Alger?
Ok, merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos auditeurs. Moi, je crois que, après avoir écouté les deux intervenants, ce qui a lieu de souligner ici, c'est que, au-delà de la question que vous posez, à savoir si la rencontre d'Alger a été un échec ou un succès, moi, je crois que cette rencontre d'Alger est venu suite à un blocage même du système, du processus de paix. S'il n'y avait pas de blocage, il n'y aurait pas cette rencontre de paix. Les autorités du Mali ont paraffé le document. Pourquoi les autres ne s'engagent pas à paraffer le document? Ils avaient donné le 1er mars pour paraffer le document.
Vous dites qu'il y avait blocage, mais la rencontre n'a pas permis de débloquer.
La rencontre n'a pas du tout permis de débloquer ce système. Si la rencontre avait permis de débloquer ce système, on aurait connu la date exacte de leur paraffe et éventuellement la date de la signature de l'accord ISAP. Tel n'est pas le cas. Le seul succès auquel le monsieur du MLA se vante, c'est le fait que la médiation soit aujourd'hui élargie aux États-Unis et à la France. C'est quelque chose qui est tout à fait normal pour la mise en œuvre de l'accord. Nous saluons ça. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre cette rencontre-là comme étant un succès.
Vous avez tous insisté sur l'élargissement à la France et aux États-Unis. Qu'est-ce que cela peut apporter de nouveau?
Bon, oui, à mon avis, dans la mise en œuvre de l'accord même, ça peut donner un coup de l'homme. Mais c'est aussi une invitation à la communauté internationale, que toute la communauté internationale prenne leur responsabilité. Parce qu'une chose, c'est de signer un accord, une autre chose, c'est de mettre en accord, de mettre en œuvre cet accord. Et cela implique et les États-Unis et la France et l'ensemble de la communauté internationale, y compris également le Mali.
Ibrahim Ashianga Maïga, du ministère de la Réconciliation nationale, le fait que la médiation soit à présent élargie aux États-Unis et à la France, ça apporte quoi?
Mais moi, je dis que la médiation n'a pas été élargie. Ceux-ci étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Et le secrétaire d'État pour les affaires africaines des États-Unis était au cinquième round. Ils étaient là. Mais, comme je l'ai dit, par principe, ils disent qu'ils ne peuvent pas signer un document qui n'a pas été d'abord validé par le Congrès. C'est la seule raison pour laquelle les États-Unis et les Français ont signé. Ils étaient là, les Français ont suivi le processus du début à la fin. Et les Français ont demandé en tant qu'amis à nos frères du CMA de signer. Ils n'ont pas voulu. Jusqu'à présent, ils font la tête devant leurs amis. Et je pense que c'est pas compréhensible. Je pense que quand des amis vous demandent quelque chose, même si vous savez que vous avez la vérité, à cause de l'amitié qui vous lie, vous devrez quand même accepter.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad, vous l'avez dit, vous réussissez du fait que la médiation soit à présent élargie aux États-Unis et à la France. Alors, vos interlocuteurs ici viennent de le dire, cet acte n'est pas un élargissement parce que la France et les États-Unis étaient là. Qu'en dites-vous?
Bon, moi, je ne vais pas tellement rentrer dans cette polémique. Moi, je pense que les termes sont clairs. C'est la première fois qu'on dit officiellement dans un communiqué, médiation élargie aux États-Unis et à la France. Cela a toute son importance. Je ne vais pas engager une polémique. Cela a toute son importance et cela est nouveau et cela n'est pas fortuit. C'est parce que tout simplement le système de suivi et de garantie a été beaucoup décrié et critiqué. On a beaucoup parlé de sa légèreté, qu'il y a eu cette nouvelle disposition de l'élargir. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette politique. C'est un fait nouveau, même s'ils étaient là avant en tant que participants. Mais c'est toute son importance, à mon avis. Donc, je ne sais pas ce que les autres pensent, mais je ne vais pas rentrer dans la polémique. Pour moi, en tout cas, c'est nouveau, c'est important et ça a toute son importance dans le cadre dispositif de mise en œuvre et de suivi.
Alors, comment appréciez-vous jusqu'à ce jour le travail abattu par la médiation internationale?
Moi, je crois qu'ils ont fait un travail, toutes les parties ont fait un travail responsable. Le communiqué qui est sorti, je pense qu'il est aussi un communiqué, un très bon résultat par rapport à ce qui est arrivé. Les discussions étaient très houleuses, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de tensions, mais ce qui est sûr, c'est que les parties ont encore projeté encore, donner la chance au processus vraiment de connaître un succès. Je crois que cela est extrêmement important et nous y travaillons, je crois que tout le monde travaille. Et étant donné que nous partageons le même objectif, c'est d'arriver vraiment à une solution qui soit pérenne, qui soit durable. Je crois que ça, c'est un souci que tout le monde partage. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un soit têtu ou autre chose. Nous partageons un même souci, chacun a des attirances. Et nous sommes dans ce cadre et je crois que l'espoir est permis. Il y a une date qui a été projetée. Nous avons écrit officiellement la médiation pour lui dire que d'ici la fin du mois, probablement les premiers jours de mai, nous allons nous concerter, on fera connaître une décision officielle.
Moi je crois que même avec cette date qui a été donnée, pour que cette date-là soit une date à laquelle nous allons atteindre un niveau suffisamment considérable de la paix, il va falloir que la communauté internationale prenne sa responsabilité, que la communauté internationale se décide ferme, c'est-à-dire qu'il montre sa fermeté vis-à-vis de ce Yanta, parce que nous avons suffisamment passé du temps dans la tergiversation. Aujourd'hui, il vient de rappeler tout à l'heure, la médiation a abattu un énorme travail, mais pour que ces efforts-là ne soient pas vains, il va falloir que la communauté internationale prenne sa responsabilité, qu'il invite ces gens-là à rentrer dans le processus de paix. Autrement dit, au-delà de la date qui a été donnée, tous ceux qui ne rentrent pas dans le cadre de la paix seront considérés comme des ennemis et seront traités avec toutes les conséquences possibles.
On en parlera au cours de ce débat. Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, quelle appréciation faites-vous du travail qui a été fait jusqu'ici par la médiation internationale?
Mais je me réjouis de la déclaration de mon frère. Bon, en tout cas, nous sommes aujourd'hui le 20. D'ici la fin du mois, il reste 11 jours. Et le mois prochain, il y a 15 jours encore. Donc ça fait 26 jours. Et je pense que 26 jours, ça fera 25 nuits. Et comme on dit, la nuit porte conseil. J'espère qu'ils auront toute la sagesse de pouvoir vraiment avoir de très bons conseils qui leur permettront vraiment de pouvoir écouter leurs frères, écouter la communauté internationale.
Alors, vous le savez, ce week-end, les négociations semblaient toujours piétiner. Et voilà, justement, on en parlait déjà. Voilà qu'on annonce la signature d'un accord de paix le 15 mai ici à Bamako. Et le préaccord n'est jusque-là pas paraffé par la coordination des mouvements de l'Azawad. Comment comprendre qu'on puisse aller alors directement à la signature d'un accord de paix? Je pose la question en premier lieu à Mohamed Ousmane Ago Mohamedoun qui est en ligne, il est de la coalition du peuple de l'Azawad.
Bon, je ne pense pas que ce qui est important, c'est que les partis acceptent. Quand les partis acceptent, il n'y a pas de souci. On a vu avec l'accord de Ouagadougou, il a été paraffé le matin et signé l'après-midi. Donc, c'est pas un problème, il n'y a pas un problème de timing. C'est de la volonté. C'est qu'il faut arriver maintenant à la volonté de toutes les parties.
Vous dites quand les parties acceptent, moi, on a entendu un responsable quand même de la CMA dire que la CMA reste sur la même position, à savoir, on n'envisage pas de paraffer pour l'instant.
La lettre de la coordination a été très claire. Nous projetons une réunion dans les jours à venir, je l'ai annoncé. Nous allons nous concerter, on prendra une décision par rapport au paraffé et à la signature. Voilà la position de la CMA. Je ne connais pas d'autre position que celle-ci.
Nous aurons le temps de revenir sur cette question. Il faut rappeler que dans quelques minutes, il sera 18h30. Nous allons observer notre toute première pause.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous allons revenir sur la question que j'avais posée tout à l'heure à votre interlocuteur au téléphone, Mohamed Ousmane Aga Mohamedounou. À présent, vous êtes ici dans le studio. Je disais, comment est-ce qu'il faut comprendre qu'on puisse aller directement à la signature d'un accord de paix pendant que le préaccord n'a pas été paraphé par une partie, à savoir la CMA? Vous allez répondre en premier lieu, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale.
Bon, nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Nos amis ont dit qu'ils ont un peuple azawadien. Nous, nous disons qu'on a un peuple malien. Nous allons voir. Et ce qui s'est passé tout récemment à Gundam, on a vu toute la communauté de Gundam, toutes les tribus ont acclamé qu'ils sont pour la paix. Et si aujourd'hui, la CMA dit au nom de la population de l'Azawad, ils ne vont pas signer. Si cette même population arrive à signer, je me pose la question, au nom de quel peuple et ils agissent? On verra bien. Donc je pense que vraiment, et je le souhaite, que vraiment eux-mêmes, en tant que ressortissants de ces zones, Mohamed, il est du Nord, je suis du Nord. Il se réclame du Nord, je me réclame du Nord. Nous sommes tous fils de ce terroir. Mais je pense que aujourd'hui, lui et moi, on est contraints de se donner la main pour le développement harmonieux de cette zone. Rien ne sert aujourd'hui vraiment de continuer une guerre qui ne fait que nous détruire. Et je pense qu'ils auront toute la sagesse d'accepter. Et comme il l'a dit, je l'espère, même si c'est le 14 mai, qu'ils puissent paraffer, s'ils le veulent, et que le 15, nous puissions signer ensemble tous, fils de ce pays, nous signons donc ce document.
Chaga Tcheblé Doumbia, du Centre d'analyse politique et économique.
Oui, moi je crois qu'il n'y a pas de paradoxe à ce niveau. Le fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la CMA n'a pas paraffé le document et qu'on fixe le 15 comme étant la date butoir pour la signature de l'accord, c'est que tout dépend de leur volonté. De la volonté de qui? De la volonté de la CMA. Et cette volonté ne pourra jamais exister comme telle tant que chacun n'use pas de son côté le pouvoir qu'il a pour les influencer. Ce qui se passe au sein de ce groupe déjà, c'est un malaise que vous avez souligné. Il ne peut pas reconnaître ça officiellement, mais c'est une division au nom de quoi? Ce n'est jamais une question de peuple, c'est une question d'intérêt partisan qui symbolise cette division. Et au nom également de ces intérêts partisans, ils ne signeront jamais ils ne parafferont jamais ce document tant que la communauté internationale n'use pas du tout son pouvoir pour les contraindre à paraffer le document, sinon pour les contraindre à rentrer dans le processus de paix.
Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad est toujours en ligne. Dites-nous, personnellement, vous excluez que la CMA revienne sur sa position avant le 15 mai? Personnellement, une question à vous.
Exclure, c'est trop dire. Moi, je crois que rien n'est exclu. Rien n'est exclu, on est dans un processus. Les gens ont tendance à fermer ce processus, il n'est pas fermé. Je pense que même après la signature, il ne sera pas fermé ce processus, il va continuer. Donc allons-y doucement, mais je crois que les choses suivent un petit bonhomme de chemin. Ce n'est pas une tâche facile. C'est quand même le mouvement de l'Azawad, c'est quand même l'un des principaux belligérants à acteurs de cette question. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'enjeux. Peut-être que mon frère a raison quand il dit qu'il y a des trucs partisans. C'est vrai, ça existe dans toute organisation. Mais il faut gérer tout ça, il faut mettre au-dessus les intérêts des populations, il faut mettre au-dessus la paix. Il faut s'assurer qu'on marque les bons pas vers la paix. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit exclu de paraffer ou de signer. Non, on est en train de travailler pour qu'ensemble, on arrive à trouver la meilleure formule qui puisse nous permettre de paraffer et quelque chose de durable, et de signer quelque chose de durable. Et on y travaille. Pour l'instant, ce qui est officiel, c'est que d'ici la fin de mois, on se concerte. Le communiqué de la médiation, on va donner notre position par rapport à ça.
Est-ce à dire qu'il y a des chances que le document soit paraffé avant le 15 mai?
Mais pourquoi pas? Moi, je suis personnellement de nature optimiste. Je suis personnellement de nature optimiste. Rien n'est impossible.
Alors, la coordination assure...
Je pense qu'il n'y a pas que la CMA seulement qui travaille à ça. La médiation aussi travaille à ça. Tout le monde travaille à ça. Donc, on verra. Soyons seulement optimistes, je pense.
Ok. Cela est compris. La coordination a su d'ailleurs qu'aucun groupe ne se désolidarisera sous prétexte que ces bases sont trop proches les unes des autres. Alors, cependant, pas plus tard que samedi, un groupe minoritaire, bien sûr, de la CMA, dirigé par un certain Younoussa Touré, annonçait dans une lettre qu'il donnait son accord pour Parafé. La CMA ne risque-t-elle pas de s'affaiblir si d'autres mouvements en son sein emboîtaient le pas? Je pose la question à Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale.
Question très difficile à mon niveau de répondre parce que je connais très bien M. Younoussa, je sais comment il a créé ce groupe. Moi, en tant que membre d'une organisation dont il était membre lui aussi, bon, mais ici je suis là en tant que ministère de la Réconciliation nationale. Mais ce que nous recherchons, ce n'est pas que des groupes viennent de façon isolée pour dire nous sommes prêts à signer. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est que l'ensemble de la CMA vienne nous dire nous allons signer, nous sommes des frères et qu'ensemble nous allons désormais sauvegarder la sécurité du pays et nous allons nous engager pour le développement économique et social du Mali.
Ibrahim Achanga vient donc de fournir sa réponse. À présent, nous donnons la parole à Chaka Tchebde Doumbia du Centre d'analyse politique et économique.
Oui, moi je crois que ces groupes-là se désolidarisent et qu'ils viennent un à un signer le document ou qu'ils signent de façon globale le document, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tous ces groupes-là là, entrent aujourd'hui dans le cadre du processus de paix, qu'ils essaient de dépasser, de surpasser les intérêts partisans et de s'inscrire dans la droite ligne de la paix. Aujourd'hui, ils se réclament être défenseurs d'une population qu'aujourd'hui n'aspire qu'à la paix. Et si cette population aspire à la paix, pourquoi les condamner encore à des violences? Il va de soi que ces différents groupes prennent leurs responsabilités, qu'ils viennent de façon isolée, qu'ils viennent de façon collective à signer le document. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces groupes-là rentrent dans le cadre du processus de paix et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes pour que le développement de cette zone puisse entamer. Commence.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, toujours en ligne. Dites-nous à présent, il y a un groupe quand même qui est dit minoritaire de la CMA qui a donc fait savoir qu'il donne son accord pour Parafim. Dites-nous, la situation actuelle, si elle perdurait au sein de votre mouvement, est-ce que la CMA ne s'expose pas à des risques d'effritement, d'affaiblissement, je ne sais pas.
Ce qui est important, c'est que la priorité c'est l'union, la priorité, c'est la cohésion au sein de la CMA, c'est ça la priorité. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas oublier quand même, c'est un ensemble de mouvements qui sont autonomes, politiques et militaires et tout ce qui s'ensuit. Ils ont une responsabilité devant la population, devant l'histoire. Mais pour l'instant, ce qui est important, vraiment, comme l'a dit l'expert qui vient de parler, ce n'est pas tellement important qu'ils viennent séparément ou collectivement, mais que tout le monde s'engage. Que tout le monde s'engage, c'est là extrêmement important et je crois que c'est dans cet esprit que nous travaillons. Mais toutes les options sont possibles. En tout cas, ce qui est important, c'est de mettre au défi quand même l'intérêt de la population, mettre au défi les souffrances que la population est en train de vivre. Et il faut les voir aussi sous tous les angles, pas seulement de l'angle ministère de la Réconciliation, mais aussi il faut aussi les voir sous l'angle aussi mouvement azawadien, parce que les populations elles souffrent réellement. Chacun de nous a une façon de lire leurs souffrances, a une façon de lire leurs solutions, mais arrivant à une meilleure lecture de leur souffrance et une meilleure de leur solution au-dessus de tout toutes les ambitions partisanes. Et voilà, je pense que c'est ce qui est important, à mon avis.
Nous allons parler à présent de ce qui est prévu au mois de mai ici à Bamako. Le choix du 15 mai pour la signature de l'accord de paix à Bamako ici, est-ce que ce choix repose sur quelque chose? Je pose la question à Ibrahim Achanga Maïga.
Quelque chose, quoi par exemple?
Est-ce une date choisie comme ça au hasard?
Non, mais bon, la date n'est pas choisie au hasard. Et toujours pour permettre à nos frères de continuer à réfléchir et de pouvoir donner leur position. Je pense que nous avons fait, on a paraffé le document le 1er mars. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril, donc ça fait un mois, 20 jours. Rien n'est fait. Mais nous pensons qu'il faut encore leur donner un petit temps encore. Comme Mohamed l'a dit, s'ils peuvent se réunir, continuer les débats, comme il l'a dit, c'est sûr que ça serait houleux de débattre. Mais nous pensons que, de façon raisonnable, en tout cas côté gouvernement, comme côté communauté internationale, on pense que les 20 jours, les 25 jours qu'on leur donne, permettront quand même, leur permettront de pouvoir réfléchir et se mettre d'accord parce que, comme je l'ai dit, nous voudrons vraiment qu'ils viennent vers nous unis. Oui, unis pour que vraiment ensemble, nous puissions regarder l'avenir du pays devant nous.
Chaka Tchebledouya.
Ok, le caractère sacré ou non de cette date-là, je crois que c'est à la médiation. La médiation sait pourquoi elle a pris cette date. Elle sait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut mettre en œuvre avant cette date. Elle sait pourquoi elle a pris la date. En revanche, moi, nous, à notre niveau, nous pensons que cette date-là n'est pas une date intenable. Tout pourrait être fait avant le 15.
Donc 25 jours, c'est raisonnable.
C'est suffisamment raisonnable. Nous avons suffisamment passé du temps dans cette situation-là. Il faut vraiment tourner la page et essayer de mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre pour aller de l'avant.
Alors, à présent, une question. Si la CMA signait l'accord à la date annoncée, y aura-t-il des garanties pour qu'il soit respecté par tous? Je pose la question à Mohamed Ousmane Ag Mohamedouno de la coalition du peuple de Dazawad.
D'abord, comme le dit les documents auxquels vous faites référence lui-même, sa réussite dépendra de la bonne foi et de la bonne volonté des parties elles-mêmes. Maintenant, si la communauté internationale, le comité de suivi a la capacité de faire un très bon arbitrage et un bon suivi de l'accord, je crois qu'il aura toutes les chances d'être appliqué. Mais si à un moment donné le comité de suivi subit les dictats d'une partie au détriment d'une autre, là, vous pouvez compter sur un compte à rebours du désordre, excusez-moi du terme.
Ouais,
y a toutes les chances que ça s'applique si les parties, premièrement, soient de bonne foi, toutes les parties signataires, et que la communauté internationale garante également soit vraiment engagée à être plus rigoureuse en matière d'arbitrage et d'application. Voilà un peu, je pense, ce que je peux dire sur cette question.
Mais le plus important n'est-il pas que les acteurs eux-mêmes soient de bonne foi?
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la première condition, c'est que les partis, les acteurs eux-mêmes soient vraiment de bonne foi. Ils soient vraiment de bonne foi parce que, comme le disent tous les médiateurs et tout le monde, les négociations, en réalité, on est en train de perdre du temps. Les négociations ne s'arrêtent pas à la signature. Tous les 18 mois de la période intérieure, c'est depuis une période de négociation. La seule différence, c'est que c'est à l'intérieur du Mali, ce n'est plus en Algérie ou ailleurs. Sinon, tous les 18 mois, c'est une période de négociation.
Ibrahim Ashanga Maiga.
Oui, bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes de bonne foi. La preuve, c'est la raison pour laquelle j'avais dit au tout début, nous avons des réserves, mais les réserves, on les a mis de côté. Nous avons dit que, comme le président de la République même l'a dit, quand on va dans des négociations, on donne une partie, on lâche une partie. Hein? C'est comme ça. Donc, je pense que de bonne foi, on va vers nos frères doivent venir vers nous. Et que moi, mon souhait, que vraiment que la médiation même ne puisse même pas jouer un grand rôle. Hein? Une fois les documents signés, que nous puissions nous-mêmes faire avancer le processus et que la médiation soit là seulement pour dire vraiment, nous sommes contents de ce qui est en train de se faire.
Chaka Tchebledouya.
Ok, moi je crois que la seule garantie pour la mise en œuvre de cet accord, c'est l'engagement des uns et des autres. Cet engagement-là, je crois que, comme on l'a dit, on ne décrète pas la conscience humaine. Il faut que chacun, de son côté, ait la conscience de la nécessité de la paix. Il faut qu'on parte vers la paix. Et c'est à ce seul prix que nous pouvons mettre en œuvre cet accord. Sinon, l'accord signé, ce n'est pas une fin en soi. L'accord, c'est des lettres réunies dans des documents. Mais la foi au contenu de ce document, dans le cadre de la mise en œuvre, c'est ça qui va être déterminant. Et cela ne saurait être possible sans l'engagement des uns et des autres. Qu'on essaie de mettre à côté ce qui a trait uniquement à moi, mon intérêt, mais qu'on regarde l'intérêt de toute une communauté, de toute une nation. C'est à ce seul prix-là que l'accord pourra faire venir la paix ici au Mali. Et c'est à ce seul prix que l'accord pourra avoir une application effective. Mais sans ça, comme il l'a dit tout à l'heure, je ne souhaite pas que nous assistons, sinon que nous participons à un contrat à rebours du malheur. Non, loin s'en faut. Je crois qu'aujourd'hui, la nécessité d'aller à la paix, ce n'est pas seulement une nécessité du peuple malien, mais c'est aussi une nécessité pour la communauté internationale.
Dans quelques secondes, il sera 2h45. Nous allons poursuivre ces débats après une courte pause.
Une réaction.
Un avis.
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Si la CMA signe l'accord de paix à la date du 15 mai, c'est de cela qu'on parlait tout à l'heure. Et maintenant, l'autre question, et si la CMA ne signait pas, quel sens aura en ce moment la cérémonie de signature prévue le 15 mai? Je pose la question à Ibrahim Achangamaïga.
Bon, vraiment, je ne souhaite pas que la CMA ne signe pas.
Mais pour l'instant,
je sais, mais comme on le dit, c'est-à-dire qu'une solution A et une solution B, bon, mais je pense qu'ils vont signer, mais s'ils ne signent pas, il est clairement dit qu'après la signature de l'accord, tous ceux qui ne signent pas seront considérés comme des ennemis du Mali, comme des ennemis de la communauté internationale. Voilà.
Nous allons maintenant nous tourner du côté de Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun qui est au téléphone. Dites-nous, monsieur Mohamedoun, il y a deux possibilités, la CMA signe ou elle ne signe pas. Alors, s'il arrivait qu'elle ne signe pas, est-ce que vous pensez que la cérémonie de signature prévue le 15 mai aura un sens?
Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit vraiment très, très, très positif qu'on organise une cérémonie sans une signature des mouvements de la CMA. Je ne pense pas que ça donne beaucoup d'espoir pour la paix. Mais mon souhait le plus ardent, c'est que la CMA, tous les mouvements qui la composent, arrivent à réussir des meilleures conditions pour signer cette paix, pour aller vers la paix. Ça, c'est mon souhait. Et le contraire, ça m'étonnerait que ce soit un bon départ pour la paix. Je ne souhaite pas du tout.
Ça veut dire que vous êtes optimiste, M. Mohamedoun?
Je vous ai dit dès au départ, je suis personnellement de nature optimiste et je travaille pour la paix, et pas n'importe quelle paix.
Chaka Tcheble Doumbia.
Ok, je crois que la CMA, c'est un monstre que nous avons créé, que la communauté internationale a créé et entretenu. Aujourd'hui, on se lève, ils disent que la CMA représente la population du Nord. Tel n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Et signer un accord sans la CMA, puisque c'est nous-mêmes qui avons contribué à faire de ces groupes-là des groupes incontournables dans la partie nord de notre pays, à mon avis, l'accord n'aura pas son sens réel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'à ce niveau, il va falloir que, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté internationale puisse jouer, puisse influer, exercer tout son pouvoir pour ces groupes-là, afin qu'ils puissent signer cet accord. Dire que la CMA, s'il ne signe pas l'accord, qu'est-ce que ça? Bon, moi je crois qu'en vérité, ça va vraiment affecter beaucoup l'accord au sens juridique du terme. Je pose d'ailleurs la question sur le bien fondé d'un tel accord, bien que la plateforme ait signé. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de ce groupe-là, de cette CMA, un groupe incontournable dans la résolution de ce conflit. Et si tel est le cas, il va de soi que tout le monde use de son pouvoir afin qu'il puisse signer le document.
Alors, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, disait hier depuis l'Éthiopie, je cite, « Le train va avancer sans eux, bien sûr, il s'agit de ceux-là qui refusent de signer. » Alors, 8 mois de négociations suffisent largement, c'est ce que disait donc le président de la République. Dites-nous alors, pensez-vous que la signature de l'accord de paix le 15 mai sera un pas de véritablement franchi vers une paix durable? Je pose la question à Achanga Maïga, Ibrahim Achanga Maïga.
Vous savez, c'est un pas, mais véritablement franchi, bon, il faut se poser la question. Parce que aujourd'hui, sur le terrain, je me pose la question si réellement la CMA a de l'emprise sur les groupes qui sont en train de semer le désordre sur le terrain. Je me pose cette question. Il y a des groupes armés partout. Et est-ce que vraiment ils ont le contrôle de ces groupes? Ces groupes, quelque part, moi, je dirais que c'est même des gens qui souvent font des attaques, ne serait-ce que pour se nourrir, parce qu'ils n'ont même pas de ravitaillement. Et je pense qu'il y a lieu, mais quand même, l'importance de cette signature permettra de pouvoir canaliser les forces, unir les forces armées maliennes, les forces de la communauté internationale, les forces des mouvements des mouvements armés afin que nous puissions lutter contre le banditisme et le terrorisme et le trafic de la drogue. Parce que ça serait une lutte de longue haleine, mais que dire que tout simplement, tout de suite, il faut être optimiste pour le retour de la paix, non.
Mohamed Ousmane Agom Mohamedouno, est-ce que vous pensez que si on parvenait à sorte en sorte que toutes les parties signent l'accord le 15 mai, pensez-vous que ça va être un grand pas vers une paix durable pour le Mali?
Moi, je peux affirmer que c'est un grand pas. Je peux affirmer que c'est un grand pas vers une paix durable, mais je peux vous assurer également qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire parce que, comme l'a dit mon frère, je partage son point de vue. Et chaque fois qu'il y a une guerre, il y a toujours des gens qui sont créés dans cette guerre, qui sont créés dans cette guerre et qui ont d'autres agendas. Je crois que ces gens ils constitueront le deuxième adversaire qu'il faut affronter dans le cadre du processus de paix, dans le cadre du processus de la construction de la paix. Cela est extrêmement important. Cela est extrêmement important de savoir. Mais toujours est-il que si toutes les parties qui sont officiellement en conflit s'engagent pour la paix, je pense que c'est un grand pas. Cela est un grand pas, à mon avis. On a déjà l'expérience des années 90, des pactes nationaux. C'était une guerre pas à la dimension de celle-là, qui n'a pas mobilisé tout ce monde. Mais aussi, vous vous rappelez très bien, entre les pactes nationaux et la paix, et une certaine paix, il a fallu des années, il a fallu beaucoup d'efforts. Et il faut s'apprêter à ça aussi, et faire encore plus d'efforts pour cette fois-ci.
En tout cas, les négociations ont longtemps duré. On parle de 8 mois de négociations. Est-ce que le temps n'est pas venu pour la communauté internationale d'exercer une véritable pression sur ceux qui traînent le pas? À vous, Ibrahim Achanga Maïga.
Nous avons toujours réclamé cela. Et nous avons toujours dit à la communauté internationale de jouer son rôle. Aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons les populations de Kidal sans école, sans électricité, sans centre de santé, sans soins, même le petit soin élémentaire. Même chose aujourd'hui pour Menaka. Je pense que tout ceci, il faut que vraiment la communauté internationale exerce son rôle et permettre vraiment aux structures, aux infrastructures sociales de base de pouvoir fonctionner pour le bien-être des populations. C'est très important et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la sécurité, au-delà de l'occupation de terrain, on doit d'abord penser à la santé, à la vie, au bien-être des populations.
Chaka Chebde Doumia du Centre d'analyse politique et économique.
Ok. Avant même de me prononcer sur les cas de la communauté internationale, vous aviez posé la question de savoir si la signature constituait un grand pas. Moi, contrairement à ce qu'on dit les deux précédents, moi je crois que c'est une étape qui vient à la suite d'autres étapes. D'autres accords ont été signés. Il y a eu les accords de Tamanrasset, il y a eu les accords d'Alger. Et aussi, nous allons prochainement, si tout va bien, signer un autre accord. Alors, est-ce que ça va constituer un changement radical? Je ne crois pas qu'il ne faut pas être aussi optimiste que ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai lu l'accord, j'ai fait la comparaison entre cet accord et les précédents accords. Et j'ai vu que, à moi, dans mon avis, c'est une continuité, une suite logique qui est là. Et qu'est-ce qu'il va changer concrètement? C'est la mise en œuvre qui va changer. Et cette mise en œuvre-là, ça va dépendre de l'engagement des uns. Et c'est à ce niveau que la communauté internationale que vous avez tout à l'heure évoquée doit intervenir. Que la communauté internationale doit prendre toute sa responsabilité. En dépit de tout ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, que la communauté internationale dise à chaque partie qu'il est grand temps que nous tournons cette page-là et qu'il est grand temps de mettre fin à la souffrance des populations au nord du Mali.
Alors, il y a certains observateurs qui trouvent d'ailleurs que la communauté internationale a jusque-là trop ménagé la CMA. Jamais le ton n'a été suffisamment dur, disent-ils. Votre avis, M. Doumbia?
Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que cette CMA-là, en réalité, ça ne représente pas la population du nord. Mon collègue du ministère de la Réconciliation nationale vient de le dire tout à l'heure, et il a d'ailleurs été reconnu par lui qu'aujourd'hui, il y a des groupes dont ils ne contrôlent plus les groupes armés, ils ne représentent pas la population du Nord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On continue encore à l'entretenir, à faire comme si on ne peut pas s'en passer. Je crois qu'il faut que chacun tire la responsabilité et la leçon de tout ce qui vient de se passer et de prendre entièrement sa responsabilité. C'est ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun une question. À force de réfléchir pour savoir s'il faut signer ou ne pas signer, finalement, est-ce que la SMA ne va pas s'exposer à des risques? Il y aura des pressions. Après, il y a d'autres choses qui peuvent suivre.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait plus de risques que la SMA n'a pas vécu jusqu'ici. Ça fait depuis 2012, il y a une guerre. Je ne pense pas qu'il y aura des risques plus graves que ceux qui ont été connus. Il y a eu des interventions militaires internationales. Les gens ont déjà l'expérience. Ils ont déjà l'expérience. Il ne s'agit pas de menacer ni de faire la pression. Il s'agit d'être conscient de la gravité du problème. Il ne s'agit pas non plus de faire un débat de légitimité qui représente la population ou qui ne représente pas la population. Non, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être conscient qu'il y a un problème réel. Il y a un problème réel qui est posé, qui se pose avec acuité, auquel il faut trouver une solution. Il ne s'agit pas de se cacher derrière des concepts de légitimité, de représentation de la population finalement, c'est qui? Qui représente la population finalement? Finalement, personne ne représente personne en réalité. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait un problème.
Mais comment comprendre cela? Personne ne représente personne.
Finalement, c'est comme ça. Personne ne représente personne. Mais maintenant, il faut avoir cette vision pour s'assurer que maintenant, être conscient qu'il y a un problème réel. Au-delà de la représentativité, il y a un problème réel, il y a des acteurs réels qui sont concernés par ce problème, il faut les traiter avec eux. Donc la communauté internationale n'est pas en train de ménager la SEMA, elle est en train de travailler avec un acteur incontournable. Les mouvements de l'Azawad sont incontournables par rapport à la solution de ce problème. Ce n'est pas un monstre qu'on a créé, c'est un acteur qui existe et qui occupe sa place.
Chaka Tchebe Doumbia.
Il faut aller avec un peu de patience, je pense. Chaka aller vers la solution.
Quand il dit
Chaka les monstres, ils sont connus là où ils sont.
Chaka Tchebe Doumbia demande à... Oui.
Je suis surpris d'entendre de sa propre bouche que personne ne représente personne dans cette crise-là. Tout à l'heure, lui, il se vantait tout de suite. Il disait la population de l'Azawad, les représentants de l'Azawad. Et en même temps, il dit que personne ne
représente...
Non, vous dites que personne ne représente personne dans cette histoire-là. Or, pourquoi prendre... Alors, s'il vous plaît, pourquoi prendre la vie de toute une population en otage parce qu'aujourd'hui, vous saviez manier les armes? Si vous ne représentez personne, il faut vous inscrire dans le processus de la paix. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes des groupes qui détiennent des armes, qui menacent la sécurité de la population, vous-même, vous reconnaissez que vous ne représentez pas cette population. Et si tel est le cas aujourd'hui, je crois qu'il faut que la communauté internationale, sinon le Mali, prenne sa responsabilité de sauver la population du Mali. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
Ibrahima Achanga Maïga, du ministère de la Réconciliation nationale.
Je ne regarde pas la dénomination qu'on doit donner, Azawad, Mali, ceci ou cela. Moi, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, Mohamed, je vous demande, vous, moi je suis dans Songo, mais j'ai fait toute mon enfance à Menaka. Je souffre de voir aujourd'hui qu'on me dise que la population de Menaka souffre, que la population de Menaka est privée de soins de santé, de soins élémentaires, est privée d'eau potable. Privé d'alimentation. Je pense que ça, cette souffrance que j'ai, vous partagez ça avec moi.
Tout à fait, mon frère.
En tant que ressortissant de ce Nord, je ne le dis même pas en tant que Malien, en tant que ressortissant de ce Nord, ça seulement devrait faire en sorte que vous et moi, on se donne la main pour dire: il faut qu'on sauve nos parents de Menaka.
Je partage cela avec vous, mon frère.
Dans ce cas, sauvons nos parents de Menaka, sauvons nos parents de Kidal, sauvons nos populations de Ber. C'est ce que moi je veux.
Voilà, c'est sûr. C'est après ce que nous allons certainement mettre fin à ce débat, le temps qui nous était imparti étant presque fini. Je rappelle qu'il était question du processus de paix au Mali et que nos invités étaient au nombre de trois. Il s'agissait d'Ibrahim Achanga Maïga, qui est du ministère de la Réconciliation nationale, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, qui est de la coalition du peuple de l'Azawad. Et nous l'avons joint lui au téléphone. Le troisième invité, Chaka Tchebe Doumbia, il est du Centre d'analyse politique et économique. Ce débat vous a été présenté par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Péting Jara, régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Djadje Touré. On se retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Et toi. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.